Les quatre éléments primitifs. Parménide et Héraclite soutenaient des thèses complètement opposées. La raison de Parménide expliquait que rien ne pouvait changer, tandis que les expériences de nos sens confirmaient à Héraclite que la nature était en perpétuelle mutation. Lequel des deux avait raison? Devons-nous croire ce que nous dit notre raison ou bien faire confiance à nos sens? Parménide, comme Héraclite, affirme deux choses. Il soutient que A. Rien ne peut se transformer et B. Nos sens sont par conséquent trompeurs. Héraclite, en revanche, défend la thèse que A. Tout se transforme, tout s'écoule et B. Nos sens sont fiables. On peut difficilement être plus antagoniste, mais qui a raison? Eh bien, Empédocle, environ 490-430 avant Jésus-Christ, originaire de Sicile, sortit la philosophie de cette impasse. Tous les deux avaient raison dans une de leurs affirmations, mais tous deux avaient aussi tort sur un point. Selon Empédocle, toute la confusion provenait de l'hypothèse de départ, qu'une seule substance était à l'origine de tout. Si tel était le cas, le fossé entre, d'une part, ce que nous dit la raison et, d'autre part, ce que nous voyons de nos propres yeux, serait tout à fait infranchissable. L'eau ne peut pas devenir un poisson ou un papillon. En fait, l'eau ne peut pas du tout changer de nature. L'eau pure restera éternellement de l'eau pure. Parménide avait donc raison en affirmant que rien ne peut se transformer. D'un autre côté, Empédocle était d'accord avec Héraclite pour faire confiance à nos sens. Nous devons croire ce que nous voyons, et nous voyons justement une nature en perpétuelle mutation. Empédocle en vint donc à la conclusion qu'il fallait rejeter l'idée d'une substance première et unique. Ni l'eau ni l'air ne peuvent seuls se transformer en rosier ou en papillon. Il était impossible que la nature procède d'un seul élément. Empédocle croyait que la nature disposait de quatre substances élémentaires qu'il appelait racines. Ces quatre racines, c'était la terre, l'air, le feu et l'eau. Tout ce qui se meut dans la nature est dû au mélange et à la séparation de ces quatre éléments, car tout est composé de terre, d'air, de feu et d'eau. Seuls changent les proportions. À la mort d'une fleur ou d'un animal, les quatre éléments se séparent à nouveau. Cela peut s'observer à l'œil nu. Mais la terre, l'air, le feu ou l'eau restent, eux, inchangés, indemnes de toutes ces métamorphoses. Il n'est pas juste de dire que tout se transforme. Au fond, rien ne change. Seuls quatre éléments s'unissent et se séparent avant de se mélanger à nouveau. On peut essayer de comparer cela avec le travail d'un peintre. Avec une seule couleur à sa disposition, disons le rouge, il lui est impossible de peindre des arbres verts. Mais s'il a aussi le jaune, le bleu et le noir sur sa palette, il peut peindre des centaines de couleurs différentes en variant simplement chaque fois leurs proportions respectives. Ou prenons la cuisine, par exemple. Avec seulement de la farine, je serais un magicien si je parvenais à faire un gâteau. Mais si j'ai des œufs, de la farine, du lait et du sucre, alors je peux faire une infinité de gâteaux différents à partir de ces quatre matières premières. Ce n'est pas un hasard si Empédocle pensait que les racines de la nature étaient justement la terre, l'air, le feu et l'eau. Avant lui, d'autres philosophes avaient tenté de prouver pourquoi la substance première était soit l'eau, soit l'air, soit le feu. Que l'eau comme l'air fussent des éléments importants au sein de la nature, Thalès et Anaximène en étaient tous deux convaincus. Les Grecs croyaient aussi que le feu était essentiel. Il suffisait de considérer l'importance du soleil pour la vie végétale et de penser aussi à la chaleur du corps humain ou animal. Peut-être qu'Empédocle avait vu brûler un morceau de bois. Quelque chose se désagrège. Nous entendons le bois craquer et gémir. C'est l'eau. Quelque chose s'en va en fumée. C'est l'air. Quant au feu, on l'a sous les yeux. Puis, il reste quelque chose quand le foyer s'éteint. C'est la cendre ou la terre. Quand Empédocle montre que tout ce qui change dans la nature est dû à l'alliance et à la séparation des quatre racines, il omet quelque chose. Pour quelle raison ces éléments s'assemblent-ils pour créer la vie? Qu'est-ce qui est à l'origine de leur séparation, dans le cas d'une fleur par exemple? Pour Empédocle, deux forces différentes sont à l'œuvre dans la nature, l'amour et la haine. Ce qui unit les choses, c'est l'amour. Ce qui les désunit, c'est la haine. Il est intéressant de remarquer qu'il fait une distinction entre un élément et une force. De nos jours, la science fait la distinction entre les matières élémentaires et les forces naturelles. La science moderne pense que tous les phénomènes naturels peuvent être ramenés à une alliance entre les diverses substances élémentaires et un petit nombre de forces naturelles. Empédocle souleva aussi le problème du phénomène de la perception. Comment puis-je voir une fleur, par exemple? Que se passe-t-il exactement? As-tu jamais songé à cela, Sophie? Sinon, c'est le moment ou jamais. Nos yeux seraient, d'après Empédocle, composés de terre, d'air, de feu et d'eau, comme tout dans la nature. La terre, dans mon œil, percevrait l'élémentaire dans ce que je vois. L'air, l'élément air, le feu, l'élément feu, et l'eau, ce qui appartient à l'élément eau. Si un seul de ces éléments faisait défaut à mon œil, je ne pourrais pas voir la nature dans son intégralité. Une partie du tout dans tout. Un autre philosophe ne pouvait accepter l'idée qu'une substance première, comme l'eau par exemple, puisse se transformer en tout ce que nous voyons. Un certain Anaxagore, 500-428 avant Jésus-Christ. Lui non plus n'admettait pas l'idée que la terre, l'air, le feu et l'eau puissent devenir du sang et des os. Selon lui, la nature est formée de minuscules morceaux invisibles à l'œil. Tout peut se diviser en parties encore plus petites, mais dans chacune d'elles, il y a une fraction du tout. Si la peau et les cheveux peuvent se transformer en autre chose, cela revient à dire qu'il y a de la peau et des cheveux dans le lait que nous buvons et la nourriture que nous mangeons. Quelques exemples modernes vont nous permettre de mieux cerner la pensée d'Anaxagore. Avec la technique actuelle du laser, nous sommes capables de produire des hologrammes. Si un hologramme reproduit une voiture, par exemple, et qu'on détruise une partie de cet hologramme, nous verrons malgré tout une image de la voiture en entier, même si nous n'avons plus que la partie de l'hologramme qui représentait le pare-choc. Tout simplement, parce que le motif entier est présent dans les moindres parties. Notre corps aussi est construit d'une certaine manière selon ce schéma. Si je détache une cellule d'un de mes doigts, celle-ci révélera l'état et la nature de ma peau, mais aussi ceux de mes yeux, la couleur de mes cheveux, le nombre et l'aspect extérieur de mes doigts, etc. Chaque cellule de mon corps détient les informations détaillées de la composition des autres cellules du corps. C'est bien une partie du tout que possède chaque cellule. La totalité est présente dans chaque partie, aussi infime soit-elle. Anaxagore appelait ces minuscules parties, qui possédaient quelque chose de la totalité, des graines ou des germes. Nous nous souvenons qu'Empédocle pensait que l'amour unissait les différentes parties pour former des corps entiers. Anaxagore, lui aussi, concevait une sorte de force qui structure et donne forme aux animaux, aux êtres humains, aux fleurs et aux arbres. Cette force, il l'appelait l'intellect, ou encore l'intelligence. Nous, en grec. Anaxagore nous intéresse à un autre titre. Il est le premier philosophe d'Athènes dont nous entendions parler. Certes, il venait d'Asie mineure, mais il s'installa à Athènes vers l'âge de 40 ans. On l'accusa d'athéisme et il fut contraint de quitter la ville. Il avait entre autres osé prétendre que le soleil n'était pas un dieu, mais une pierre chauffée à blanc qui dépassait de loin en taille la presqu'île du Péloponnèse. Anaxagore était passionné d'astronomie. Il soutenait que tous les corps célestes étaient formés de la même matière que la Terre. Telle était la conclusion à laquelle il avait abouti après avoir examiné une météorite. C'est pourquoi il n'était pas exclu, selon lui, que des hommes vivent sur d'autres planètes. Il fit remarquer que la Lune ne s'éclairait pas toute seule, mais qu'elle recevait sa lumière de la Terre, et il expliqua par ailleurs le phénomène des éclipses de soleil. PS, je te remercie de ton attention, Sophie. Tu seras sans doute amenée à relire ce chapitre plusieurs fois avant de bien le comprendre. Mais un tel résultat mérite bien qu'on se donne un peu de mal. Tu n'apprécierais guère une amie qui serait incollable sur tous les sujets sans que cela lui ait coûté le moindre effort, ou je me trompe? Il te faudra attendre jusqu'à demain pour avoir la réponse au problème de la substance unique et des transformations au sein de la nature. Tu feras aussi la connaissance de Démocrite. Je ne t'en dis pas plus. Sophie écarta légèrement les broussailles épaisses et, grâce à cette petite ouverture, jeta un coup d'œil dans le jardin. Il fallait qu'elle remette un peu d'ordre dans ses pensées après tout ce qu'elle avait lu. Il était clair comme de l'eau de roche que, justement, l'eau ne pouvait devenir autre chose que de la glace ou de la vapeur. Il était hors de question que l'eau puisse se transformer en pastèque, même si de nombreuses langues l'appellent « melon d'eau », car même une pastèque était composée d'autre chose que simplement de l'eau. Mais si elle en était si convaincue, n'était-ce pas parce qu'on le lui avait dit? Aurait-elle vraiment su que la glace n'est que de l'eau si elle ne l'avait pas appris? N'aurait-elle pas dû sinon étudier très précisément le phénomène de l'eau qui commence par geler avant de fondre et redevenir eau? Sophie essaya de penser par elle-même sans se référer à ce qu'elle avait appris. Parménide avait refusé de reconnaître toute forme de changement. Plus elle y réfléchissait, plus elle était obligée d'admettre qu'il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Son bon sens lui interdisait d'accepter l'idée que quelque chose puisse d'un seul coup devenir quelque chose de complètement différent. Il n'avait pas manqué de cran, car il avait été obligé de réfuter dans le même temps les phénomènes naturels que chacun pouvait constater par soi-même. Tout le monde avait dû se moquer de lui. Empédocle aussi avait été assez astucieux pour affirmer que l'univers ne saurait être composé d'un seul, mais de plusieurs éléments. De cette façon, tout changement dans la nature était rendu possible sans pour autant transformer quoi que ce soit. Le vieux philosophe grec avait abouti à ses conclusions en raisonnant et en étudiant la nature, mais sans toutefois pouvoir se livrer à des analyses chimiques comme le font les scientifiques aujourd'hui. Sophie ne savait pas au juste si elle devait vraiment croire que la terre, l'air, le feu et l'eau étaient à l'origine de tout ce qui est créé dans la nature. Mais au fond, quelle importance! Sur le principe, Empédocle ne s'était pas trompé. La seule possibilité que nous ayons d'accepter toutes les transformations que nos yeux perçoivent sans pour autant perdre le nord, c'est d'introduire plus d'une substance élémentaire. Sophie trouva que la philosophie, c'était vraiment génial, car elle pouvait suivre toutes ses idées avec sa propre raison, sans avoir besoin de se rappeler ce qu'elle avait appris en classe. Elle en vint à la conclusion que la philosophie n'était pas vraiment quelque chose qu'on peut apprendre, mais qu'on pouvait peut-être apprendre à penser de manière philosophique.